C'est bien sûr Radio La. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment est-ce que, j'allais dire, on s'est rencontrés? On était chez Yo-Yo Vidéo. Il se trouve que, par hasard, Toto est arrivé, alias Michel Grimal. Et Michel, bien sûr, nous parle de toi, Yo-Yo en même temps. Et on découvre un texte que tu as écrit sur une page A4, avec des mots très simples, mais qui parlent beaucoup.
Oui, effectivement. Mais comme, c'est un texte qui parle de Yo-Yo, de son magasin, de ce qui est aussi sa vie. Hein. Ce mélange de commerce, entre guillemets, et de liens. Il a la particularité justement de faire que les gens chez lui se rencontrent et se parlent. Alors, se parlent de tout, hein, de tout et de rien, mais ça parle, ça rapproche. Le temps de le dire, le temps de le faire, donc 5-10 minutes, ça fait rien.
C'est parti comme ça, ça s'est posé voilà. Comme ça.
Tout à fait.
Donc, c'est aussi quand même une longue histoire que vous avez tous.
Oui, puisque nous, on est arrivés ensemble, enfin, nos parents respectifs sont arrivés en 61 sur le quartier. On a été voisins de la même entrée, lui au 4e, moi au 10e. Donc, ça, forcément, ça crée des liens. On a fait des bêtises en parlant très, très poliment. Ensemble, puis voilà, les aléas de la vie ont fait qu'on s'est éloigné, on s'est retrouvé, on s'est rééloigné, mais c'est la vie. Et là, depuis quelques années, je dirais maintenant pratiquement 20 ans, je suis un de ses fidèles, pour ne pas dire piliers, de son vidéoclub.
C'est effectivement un club, un gros club. C'est un vidéoclub, mais aussi, surtout, un club.
Oui, c'est un club, mais tout à fait ouvert, absolument pas fermé. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite vraiment à y aller, parce que les rencontres avec le maître des lieux est très surprenante au premier abord. Mais si on a la curiosité de gratter un petit peu la surface, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelqu'un de vraiment génial.
Alors là, on est juste à l'entrée du centre social du Grand Parc.
Oui.
Et je me pose une question, soudainement, je me dis, Grand Parc, t'as une idée, toi? Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé cette idée, Grand Parc?
À l'origine, le Grand Parc, c'était 5-6 bâtiments. 6 bâtiments au milieu d'un parc paysager. Et avec ce qu'on a appelé pudiquement les événements d'Algérie, lorsque tous les rapatriés sont arrivés en masse en France, il a fallu les loger. Donc il a été décidé dans l'urgence de continuer l'agrandissement de ce grand parc, entre guillemets, qui n'a été parc finalement, que dans les années, je crois que ça a été finalisé en 71. 73 avec le Mozart, mais en 71, on s'est occupé de la partie parc. Avant, c'était surtout les bâtiments. Moi et d'autres, on a été bercés par les sonnettes. Ah, qu'est-ce que c'est que les sonnettes? C'est vrai que maintenant, ça ne se voit plus. Les sonnettes, c'était les grosses machines à vapeur qui enfonçaient les pieux. Maintenant, ce sont des vis. Avant, c'était des marteaux pilons. C'est-à-dire qu'il y avait un dispositif qui faisait remonter la masse métallique et qui le faisait redescendre, donc ça enfonçait les pieux petit à petit. Parce que tous les bâtiments sont montés sur pieux, puisqu'ici, c'était des cressonnières. Donc, beaucoup.
Cressonnières.
Oui.
Des champs
de cresson, voilà. Donc
le terrain est
très marécageux, très humide. Donc pour pouvoir stabiliser les bâtiments, il a fallu aller jusqu'à 40 mètres de profondeur.
Ouais.
Je te dis pas le nombre de boum boum qu'on a qu'on a supporté.
Et vous avez rebaptisé ça des sonnettes.
Ben c'est pas nous, c'est. Enfin peut-être que c'est le parler populaire qui l'a appelé comme ça, mais moi j'ai toujours entendu parler de sonnettes.
Parce que boum boum, c'est pas sonnette quoi.
Non mais bon. C'est peut-être notre façon, enfin ouais. La façon qu'avaient nos parents
de le qualifier,
peut-être sur un mode humoristique,
ouais.
Pour ne pas en pleurer.
Donc t'as entendu beaucoup de sonnettes.
Ah oui, parce que c'était jour et nuit quand même. Hein.
Ah bon.
Ah ben oui, hein, les constructions, il fallait que ça avance, hein, les bâtiments, parce que devant, ça attendait.
Et alors toi, Dominique, c'est quoi l'histoire en fait? Comment t'es arrivé ici?
Je suis arrivé ici après le dispositif de reclassement du quartier Mériadec.
Oui.
Bon, Mériadec et quartier défavorisé qui était Saint-Pierre et Saint-Michel. Donc mes parents se sont vus octroyer un logement absolument magnifique. Voilà, de l'eau, on n'était pas obligé d'aller sur le palier pour avoir de l'eau, les sanitaires à l'intérieur, quelque chose de clair et lumineux.
Tu parles de quoi, les années 70?
Hein?
Tu parles de quelles années, toi?
61.
61, pardon.
61, ah oui, oui. Non. Il y a ici, tous les habitants des Cressonnières qui vivaient, c'était des bidonvilles, hein. C'était des véritables taudis. Ont été relogés en priorité, hein, puisqu'on venait construire sur leur territoire, entre guillemets, là où ils habitaient, donc il fallait bien les reloger quelque part. Donc ils ont été relogés en priorité. Et ce qui a valu quand même des scènes assez, burlesques, ubuesques parfois. Par exemple, moi je me rappelle avoir vu les charbonniers distribuer le charbon dans les étages. Dans des logements qui étaient pourvus en gaz. Quoi. Mais ces gens-là qui avaient pendant des années, pour ne pas dire des décennies, qui s'étaient chauffés et cuisinés avec leur cuisinière à charbon, mais quand ils ont aménagé, ils ont amené la cuisinière, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Pour eux, il n'y avait pas aucun autre mode de fonctionnement. Quoi.
Et toi, quand tu arrives là et que tu vois ces gens travailler dans les champs de Cresson?
Ah non,
toi tu les as pas vus, toi?
Je les ai pas vus, ouais. Je suis arrivé là, j'avais 3 ans, quoi.
Ouais, pardon.
Donc
mais c'était qui travaillait, c'est qui travaillait dans ces champs? C'était des locaux, entre guillemets, enfin des gens du coin, ou c'était...
On appelait ça les Cressonnières, parce qu'effectivement il y avait des Cressons, mais je pense pas qu'il ait été exploité plus que ça.
Ah, c'était assez sauvage.
Voilà, c'était plus un bidonville pour... voilà.
Ouais.
Où les gens... Et comme partout, hein, lorsqu'on quitte sa campagne, etc., on se retrouve à la lisière des villes. Et dans la fin des années 50, où la pauvreté était quand même généralisée, hein, il y a eu davantage de pauvreté que maintenant. Hein, même si maintenant, elle est quand même effective, mais il faut quand même s'imaginer, dans les années 58, c'était vraiment pas rose, hein, 58, même avant. Hein. Il a fallu vraiment attendre le départ des 30 Glorieuses, comme on les appelle, qui n'ont jamais fait 30 ans. Mais fin 59-60, où là, ça a commencé à redémarrer, jusqu'à ce moment-là, c'était quand même très...
Ouais. Et toi, donc, t'arrives ici, t'as 3 ans, tu m'as dit.
J'ai 3 ans, oui.
Et alors, c'est quoi ton premier souvenir du quartier? Tu t'en rappelles un peu de, parce que 3 ans...
Souvenir du quartier.
Enfin, tes premiers souvenirs.
Mes premiers souvenirs, c'est surtout des souvenirs d'intérieur, puisqu'à 3 ans, on reste à la maison, quoi. À l'époque, étant donné que les mères qui travaillaient, c'était vraiment l'exception. Donc, les mères étaient vraiment présentes dans le foyer, quoi. Donc... il n'y avait pas de nécessité de crèche, etc. Même si par la suite, ça a été amené, mais non.
Donc C'est quoi? C'est des odeurs de bouffe, c'est...
Des odeurs de bouffe, des bruits aussi. Des bruits, parce que bon, à 3 ans, même 4, 5 ans, on entend des bruits qu'on n'arrive pas nécessairement à identifier. Parce que nous, on avait un interdit qui était vraiment absolu, c'était d'ouvrir la fenêtre. Parce que nous, on habitait au 10e étage. Donc voilà, c'était l'absolu, l'interdit absolu. On n'ouvre pas la fenêtre. Donc ça nous était difficile de voir quoi que ce soit.
Et alors, à partir de quel âge tu commences à avoir l'autorisation de descendre?
Ah, il t'a dit ça, il t'a parlé de descendre.
Personne, c'est
ouais.
Moi là.
Ouais. Mais effectivement, de descendre, oui, c'est une l'expression. C'était on descend en bas. C'est tout à fait.
Pas mal.
On descend en bas. Parce qu'à l'époque, notre terrain de jeu, c'était le parvis des bâtiments, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de console. Moi, j'ai. Je me rappelle la télévision, c'était la première télévision que mes parents ont eue, c'était une télévision à tire-lire. Ah, c'est quoi ça?
Ouais, c'est quoi ça?
Eh bien, pour se payer la télévision, on insérait des pièces de 1 franc.
Mais elle était où, la téloche?
La téloche?
Ouais.
Eh bien, dans
chez toi? Ouais. Ah, chez toi, et tu mettais...
Oui, il y avait un dispositif derrière, il fallait mettre 1 franc pour regarder la télé. Et ça durait, je ne sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que mes parents se faisaient une réserve de pièces de 1 franc pour ne pas être à court de monnaie ou en plein milieu d'un film ou d'un truc comme ça.
Il y avait la tirelire.
Il y avait la tirelire dans le truc. Nous on appelait ça une tirelire, mais c'était un monnayeur quoi. On appelait ça la tirelire. Et bon après, une seule chaîne en noir et blanc. Ça remplit pas une après-midi de gamin, quoi. Hein. Surtout que chez moi, on était nombreux, on était 6.
Ah ouais.
Donc, on file des ans, hein. Mais on est arrivé, on était quand même 3. Donc, notre terrain de jeu, c'était... voilà, les chantiers. On faisait beaucoup de jeux dans l'enceinte des chantiers.
Et tu commences à quel âge?
Ça, mes souvenirs, ils remontent à... Ouais, 6-7 ans.
Ouais.
Voilà, sur... vraiment, les trucs... moi, je me rappelle un dimanche soir. La veille, on avait été sur les fossés. Tu connais pas l'expression? Ah. Ouais. Les fossés, à l'époque, c'était le cours Victor Hugo.
D'accord.
Et là, le dimanche matin, il y avait un très grand marché. Tout le long du cours Victor Hugo, où on pouvait s'habiller, se chausser au meilleur prix. Et mes parents m'avaient acheté une superbe paire de mocassins marron. Ça c'était comme ça, hein, c'était chacun son tour. Et moi, le dimanche, je descends en bas pour aller jouer avec ma paire de mocassins. Sur le chantier de l'immeuble Montesquieu. On jouait un peu à tout et à n'importe quoi, et à un moment donné, je sais pas, on se met à se poursuivre les uns des autres. Donc moi, je grimpe un monticule de gravats et je saute. Et je me retrouve avec les deux pieds dans du ciment béton. Hein, c'était le reliquat, l'évacuation, lorsqu'il vidangeait et lavait les bennes. Donc je me retrouve ça dans à peu près 30 cm de béton. Surprise. Et la finalité, c'est que je suis rentré chez moi en chaussettes, parce que les godasses étaient restées dans le béton. Et là, ça ne l'a pas fait, quoi.
Et quand tu fais le chemin du chantier à chez toi à pied, t'es comment? Tu pleures?
Pas bien du tout. Pas bien du tout, parce que à l'époque, il n'y avait pas de numéro vert pour les enfants battus. Tout ça n'existait pas. Donc, je sentais venir
T'es rentré tout seul ou il y a des potes qui
la
t'ont
grosse.
ramené? Je te rappelle plus.
Non, peut-être qu'on est rentré en groupe, mais bon. De toute façon, on était tous logés à la même enseigne. Hein. Il n'y avait pas. Il y avait. Moi, j'en ai pris une, et puis peut-être qu'il y en a un autre qui en a pris une, parce que il ne m'avait pas empêché de faire la connerie.
C'est le pater qui l'a mise ou...
Ah ouais, ça c'était privilège du pater. Mais bon, c'est. Enfin, nous, ça ne nous posait pas de problème. Ça ne nous posait pas de cas de conscience. On savait très bien que connerie égale rouste, c'était le deal. Hein, parce que pour pouvoir circuler dans un environnement qui était absolument non protégé, parce qu'il y avait des camions, qui circulaient dans tous les sens. Il n'y avait pas forcément de rue. C'était des chemins défoncés par les camions. C'était des. Voilà, c'est des. Quand tu cours là-dedans, tu peux pas. Voilà, soit tu gardes tes enfants chez toi, où il y a double tour, ou soit ils acceptent que. Donc à l'époque, on était moins protégés, entre guillemets, que maintenant.
Mais est-ce que tu veux dire qu'il y a eu des accidents à cette époque-là? Pas spécialement.
Non, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir. Certainement qu'il y a dû y avoir quelques problèmes. Mais c'est vrai que pour un gamin de 7, 8 ans, la cité, le Grand Parc, ça représente quand même un monde à part, dans le sens que, déjà, on raisonnait en termes de territoire. Très très important. Hein. C'est-à-dire que le H, le I et le G, ça allait, tu vois, un truc. Mais par rapport à l'autre bout de la cité, c'était pas ça, quoi.
Un territoire dans le territoire.
Il y avait des territoires dans le territoire. Mais bon, c'était des limites créées de toutes pièces par nos fantasmes de cow-boys indiens. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Avec quand même des zones de neutralité. Le Suma, c'était une des zones de neutralité. Le Suma, c'était le centre commercial. Où là, on se retrouvait tous pour faire les pires choses, quoi.
Ah bon? Vas-y, une petite. Il y en a beaucoup.
Non, ouais, non, non, voilà, je voudrais pas remuer de vieux contentieux, de vieux trucs. C'est pas bon.
C'est pour ça que tu as vu, je te disais une petite.
Ouais. Non, non, mais je me rappelle, moi, par exemple, avoir fait le tour des poubelles du quartier pour rechercher des bouteilles de vin 6 étoiles qui étaient consignées.
Eh oui.
Donc ça, c'était notre trésor de guerre. Et après, quand on avait suffisamment, on allait derrière le Sumas, qui est maintenant le Saint-Pli. Et il y avait là, il y a une petite guérite où il a récupéré les bouteilles. Et on avait les pièces jaunes en conséquence qu'on convertissait en bon bec. Hein, là, c'était l'Eco Presto. D'abord en bon bec et plus tard en cigarette P4. Suivant
pas,
l'âge.
Pas beaucoup plus tard ou...
Non, aussi quand même un petit peu plus tard. Non, il faut quand même pas exagérer. On n'était pas quand même non plus des monstres. Voilà, donc.
Et comment on grandit comme ça dans un quartier qui est en plein chantier, en plein de construction? Ça se construit pas en 2 ans quand même le quartier?
Non, si. Ça a mis une dizaine d'années à se construire, mais sans aucun problème. Hein. Puisque notre monde, quand même, se réduit à l'entrée déjà. Donc, c'est les copains de l'entrée. parce que à cette époque, l'enfant unique était vraiment l'exception. C'était même la bête curieuse. Il y avait beaucoup de familles où il y avait une flopée de gamins. Donc, nous, ça se réduisait d'abord à l'entrée, après au bâtiment. Et ça nous suffisait.
Et à cette époque-là, c'était la population, c'était quoi ? C'était un mixte ? C'était quoi ?
Oui, il y avait une mixité sociale différente, je pense différente, mais qui était quand même installée. Mixité sociale, par exemple, on avait le D qui était uniquement que des fonctionnaires.
Ah ouais.
Hein, c'était la SNI qui s'en occupait, qui le gère toujours. Après, il y avait les bâtiments de l'ASBUC, hein, société bordelaise urbaine de construction, qui l'a relevé directement de la mairie, de la municipalité, et où les gens avaient un revenu moyen légèrement supérieur à ce qui s'appelait à l'époque tout simplement les HLM. Donc la tour, le G, voilà. Mais il y avait quand même une certaine mixité. Disons que les rapports étaient différents. Déjà, il y avait plus d'entraide. Plus d'entraide parce que quand nos parents sont arrivés sur la cité, ils venaient à peu près tous des mêmes endroits. Donc ils se connaissaient déjà, sinon de vue. Donc ils ne sont pas arrivés en terre étrangère. Et après, il y avait beaucoup du fait que les mères étaient au foyer. Mais très souvent, l'après-midi, c'était un s'emballer d'étage en étage. On va boire le café chez l'une, on va manger les gâteaux chez l'autre. Voilà, ça n'arrêtait pas.
C'est bon, ça.
Oui, mais voilà. On n'avait pas peur d'aller demander du lait ou du sucre. Sans crainte de se faire envoyer balader ou trouver porte fermée. Ça, c'était comme ça à l'époque. C'était ce niveau d'entraide qui permettait peut-être aussi de supporter toutes les difficultés de la vie de l'époque, quoi.
Et à ce moment-là, dans tes voisins, dans les autres bâtiments, est-ce que tu avais... C'était quoi ? C'était les vagues de migration portugaise, italienne ? C'était quoi, en fait, le paysage ? Non, pas encore ?
Non. Disons qu'il n'y a pas eu véritablement de vagues.
Ah, ouais.
Moins que maintenant. Enfin, en tout cas, le ressenti était différent. Hein, puisque la plus grande vague, entre guillemets, ça aurait été celle des rapatriés d'Algérie.
Ouais.
Mais déjà très important, c'était des pieds noirs. Donc des Français. Ben, c'est comme ça que voilà, c'était la perception de l'époque. Hein. C'est pas moi qui l'aurais défini. Hein. Je ne me permettrai pas. Voilà, c'était des Français. Il y avait bien sûr des Algériens, puisque de fait, des Tunisiens, des Marocains, mais sans. Sans réelle visibilité, quoi.
Tu veux dire qu'ils étaient discrets ? Non, c'est pas ça que tu voulais dire.
Non. Sans réelle visibilité par rapport à maintenant. Je veux dire qu'ils étaient présents dans la vie de tous les jours. Hein. On les croisait dans l'ascenseur. Nos voisins étaient des Marocains. On les croisait dans les commerces, etc. Mais voilà, c'était des habitants de la cité, quoi. Avant d'être des Marocains, des musulmans.
Donc vous ne faisiez pas que vous croiser ?
Non, mais pour la même raison que je viens de te dire, d'évoquer, c'était, elles participaient aussi, ces femmes-là participaient aussi au balai incessant des voisins-voisines, quoi. Donc, voilà, et puis bon, moi je me rappelle avoir vu des moutons dans le hall d'entrée. Les moutons de l'Aïd, eh bien, ils étaient dans le hall d'entrée, quoi. Pourquoi pas ?
Pas de soucis avec les...
Non. Je ne sais pas ce que ça donnerait actuellement. Je pense que ça grincerait davantage. Mais à l'époque, non. Des moutons dans l'entrée. C'est pourquoi ? Ben, c'est notre fête. Ah bon ? Basta, on passe à autre chose, quoi. On ne s'attarde pas... sur le fait, on le monte pas non plus en mayonnaise. C'était comme ça. C'était. On avait une autre perception de l'autre. Mais la perception de l'autre était différente, bien différente de ce qu'elle est maintenant. On essayait plus de. Je dirais pas de l'assimiler, enfin de partager le plus possible avec lui que ce qui ne se fait aujourd'hui. Ou là, par rapport à tout ce qui se passe socialement, économiquement, etc., où chacun se replie un petit peu sur lui-même, dans sa coquille, dans sa communauté, font qu'on se rencontre moins, on a plus de difficultés à échanger, on a plus peur de l'autre aussi, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est l'autre, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est là.
Pourtant, on nous en dit tellement de plus en plus sur les autres, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils viennent, on est à... C'est-à-dire overdosé par les informations sur tout ça, quoi.
Oui, mais trop. À mon avis, on est trop informé. Ça en devient presque de la désinformation. Parce que ce qu'on entend ne s'applique pas toujours à ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Ça peut être totalement à l'opposé de ce que l'on nous dit.
Ouais.
Et ça fausse les rapports entre les gens. Hein, puis il s'est installé des archétypes. Ce qui fait que sans connaître l'autre, il a déjà une étiquette. Qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas le problème. Le problème, c'est de poser une étiquette sur une personne. Avant, comme c'est bien le cas, de s'apercevoir que finalement. L'étiquette, elle est complètement fausse, que tu as risqué de rater quelque chose en ne voulant pas justement essayer de partager avec cette personne-là. Ça, je crois que c'est ce qu'on a perdu. Enfin, une des plus grandes pertes, c'est justement ce partage qu'il y avait à une époque, il n'y a plus. Ou plus aussi riche, plus aussi présent.
Alors, par rapport à ce que tu es en train de dire, de raconter, il y a une image qui te vient sur justement cette surprise de l'autre, de découvrir un univers. Tu vois ce que dans la rencontre?
Je ne suis peut-être pas
la
bonne personne pour dire ça, puisque moi, la découverte de l'autre, je l'ai faite très très jeune, j'avais 16 ans. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez, plus qu'assez, qui étaient très ouverts et qui m'ont permis, moi, à 16 ans, de partir à l'autre bout du monde.
Ah bon ?
Et ouais. Donc j'ai eu une.
Par quel moyen ?
Tout simplement en travaillant. J'étais marin de commerce. Et donc, j'en remercie le ciel doublement pour mes parents, Et pour avoir la chance d'être tombé sur des hommes, puisque moi, 16 ans, j'avais même pas 16 ans la première fois que je suis parti. Mes parents ont dû demander une dérogation au ministère du Travail et au ministère de l'Éducation.
Effectivement, c'était des parents.
Ah ouais, ouais, non. Mes parents, c'est bon. Donc voilà, et à 16 ans, je me suis retrouvé dans un milieu d'hommes. Puis les marins ne sont pas les plus.
C'est des gueules.
Cajoleurs.
Comment ? Cajoleurs. Ouais.
Cajoleurs. C'est assez rugueux, mais en même temps, j'ai eu la chance de tomber sur des mecs vraiment super qui m'ont permis de grandir. En ayant vécu des moments très très forts, justement, qui permettent de se forger un caractère, une personnalité. Et oui, j'ai partagé, puisque là c'est vraiment du partage avec des gens qui avaient encore moins, beaucoup moins que mes parents. Donc déjà, à 16 ans, tu commences à...
Relativiser
beaucoup de choses, quoi. Tu te dis, merde, non, effectivement...
j'ai de la chance.
Voilà, quelle chance j'ai de pouvoir vivre ce que je vis chez moi, enfin, je veux dire, par rapport à ce que je vois, quoi. C'est incroyable. Mais il y avait quand même un fil rouge qui était justement cette générosité. Alors, je ne sais pas si c'est ma tête qui revenait... ou ma façon de me comporter par l'éducation de mes parents. Mais j'ai toujours eu cette possibilité de partager avec des gens, avec des parfaits inconnus, hein. Des rencontres qui, de suite, faisaient que
ça
passait sans aucun problème. Parce qu'il y avait aussi du respect. Parce que ça, je l'ai rapidement intégré, c'est que ces gens, quels qu'ils soient, ils étaient respectables, même s'ils n'avaient pas grand-chose, ils étaient respectables, comme était respectable leur façon de vivre, leur façon
de penser,
leur religion, etc. C'est t'es toujours l'étranger, tu n'es jamais en pays conquis. Il y avait une chose qu'il fallait laisser de côté, c'était ses propres certitudes. Parce qu'à chaque fois, elles étaient mises à mal. Donc, à 16 ans, ça fait beaucoup de...
D'informations.
Beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de formations aussi.
Ouais.
Ça fait que, bon, quelquefois, j'étais en décalage. Parce que moi, quand je revenais dans ma cité, il me fallait quand même...
Il y avait un décalage horaire.
Ah, puisqu'horaire, il me fallait bien une quinzaine de jours avant de réapprendre les codes.
Bien sûr.
Parce que moi, pendant 5-6 mois, ces codes, je ne les pratiquais plus.
C'était des saisons de 5-6 mois que tu faisais
Ouais, de 5 ou une fois 6 mois, mais c'était entre 4 et 6 mois, quoi. Et je revenais pour des vacances de 2 ou 3 mois.
Tu faisais quoi sur ton bateau ?
J'ai commencé comme novice, c'est-à-dire, tu es là pour...
Apprendre.
Apprendre, même si tu as déjà fait une année d'apprentissage théorique. Puis après, tu passes matelot. Moi, j'ai terminé timonier.
Ça fait quoi, un timonier ?
Un timonier, c'est celui qui est à la barre.
Voilà.
C'est celui qui conduit le bateau. Voilà.
Tu étais sur quoi comme bâtiment ?
Mais moi, j'ai commencé alors sur un bateau qui faisait... Alors, si je me souviens bien, en jauge net qui faisait 8500 tonneaux.
Quand même.
C'est un bateau de 155 mètres de long, quand même. Hein. On était 43. Et j'ai fini sur un bateau automatisé, de 250 000 tonneaux. Et où on n'était plus que 19. Cherchez l'erreur. Mais mes plus belles années, je les ai vécues sur les vieux bateaux, quoi. Parce que, on restait longtemps dans les ports, etc. Donc, justement, la possibilité d'échanger, la possibilité de, d'aller voir derrière, parce que bon, un port, c'est où qu'il soit, reste un port,
ouais.
Avec tout, tout ce que cela comporte.
Oui.
Alors que quand tu veux bien aller voir derrière, ouais, tu fais des trucs, ouais, tu fais des rencontres très très intéressantes, très très surprenantes, très très enrichissantes. Donc voilà, malheureusement, j'en parlais il y a quelques mois avec une de mes sœurs. À l'époque, je ne faisais pas de photos parce que c'était compliqué, on n'avait pas encore de portable. Même pour faire du cinéma, c'était de la photo, il fallait quand même un bon niveau. Hein. Et donc je n'ai aucune trace. Et ma sœur m'a dit, mais peut-être, mais quand même, tu as des souvenirs de ces voyages? Et bien, oui, évidemment. Il dit, mets-les par écrit. Alors j'ai commencé à essayer, et puis j'ai vu que ça fonctionnait. Et je mets j'ai mis certains de mes voyages les plus...
marquants.
Ouais, enfin pour moi en tout cas, les plus révélateurs sur papier. Et je les ai fait illustrer par un ami. Donc c'est pas mal, donc je continue.
Est-ce que tu as envie d'éditer ou est-ce que tu es édité?
Non, bon. C'est pas la prime.
Donc ça reste à la maison?
Ben non, je vais peut-être les monter en expo et puis à la suite de ça, voir. Enfin, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de partager. C'est de partager ces voyages qui, moi, m'ont fait rêver et qui, j'espère, à travers ce que les gens pourront lire et voir, en profiter aussi, quoi.
Est-ce que tu as déjà partagé ça avec des gens entre autant,
oui, 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 oui. Bon, mais le retour a toujours été...
Super.
Restons modestes. A toujours été bon, quoi. Mais le même retour que tu as pu me faire lorsque tu as lu le texte sur... sur Yo-Yo, quoi. Voilà, mes écrits fonctionnent à peu près dans le même truc. Beaucoup de ressentis, un petit peu de poésie, et voilà, c'est parti, quoi.
Donc c'est là que tu as commencé à écrire, en fait. C'est quand on t'a dit, bon, t'as pas de photos, et ta sœur bienveillante,
ouais,
tu
mais
dis, tiens, tu pourrais écrire. Tu avais jamais pensé?
Non, non, non.
Tu
non,
t'es
non.
mis à écrire comme ça, du jour au lendemain, paf.
Ben oui, parce que j'ai voulu savoir un petit peu, déjà, mes souvenirs, l'état de mes souvenirs, quoi. Et c'est comme tout, hein. Quand l'entretien pas, y a des souvenirs qui se perdent. Mais en remettant en pratique, à se forcer à se souvenir de certains événements, ça remonte petit à petit à la surface. Et plus l'exercice avance, plus c'est facile au niveau des souvenirs. L'écriture, ça reste quand même... difficile, mais bon. Non, ça va. Enfin, reste difficile. Ce qui est difficile, c'est justement de se mettre à nu. Parce que quand on écrit pour d'autres, on se met nécessairement à nu. Mais autrement, le fait d'écrire par lui-même, j'ai découvert que ça m'était quand même très très facile.
C'est fluide?
C'est fluide, ça
coule.
Ouais, ça coule. Puis j'ai une manière de travailler qui est la mienne, c'est que voilà, je gamberge d'abord, et généralement j'écris quelques mots, une phrase, je la mets de côté, et généralement quand je la reprends, ça
découle.
Voilà, ça découle, et puis c'est voilà, mais quand j'écris... Je mets rarement plus de 20 minutes à écrire un texte d'une page, quoi.
Et alors, est-ce que tu fais partie de ces gens qui connaissent au moins une partie de les textes qu'ils ont écrits par cœur, ou pas du tout?
Non, non, non.
Ouais.
Non, non. Non, non, moi je peux te resituer les contextes, ouais. Mais par cœur, non. Non, non.
Ouais.
Non, non.
Est-ce que tu fais des lectures?
Ben, pas encore. Hein. Enfin, j'en ai fait une ou deux, mais... comme
est-ce
ça,
que c'est un exercice dans lequel tu te sens à l'aise ou c'est compliqué de lire ces textes à voix haute?
Ça dépend du contexte. La dernière que j'ai faite, elle était vraiment très très dure. D'accord. Très 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 dure.
T'en as bavé.
Ouais, ça a été très dur d'arriver à la fin parce que c'était jeudi dernier lors des obsèques de ma mère. Alors, c'était pas évident.
C'est remonté.
Ah oui, surtout que ma mère était une personnalité du quartier, de par ses engagements, de par ses attitudes, voilà, elle était très très connue sur le quartier. Et donc il y a eu énormément de monde, etc. Mais ça a été difficile, de lui dire au revoir. C'est ce qui est normal. C'est toujours très difficile de dire au revoir à sa mère. Enfin, je présume, enfin, d'après ce que j'ai vécu, c'est très compliqué. Et ça le reste, hein, puisque bon, c'est encore tout frais. Donc j'ai
fait réussi, quelques... T'as réussi à retenir tes larmes pendant la lecture ou ça a été impossible?
Non, j'ai réussi, mais on sentait quand même que...
Il y avait des émotions.
Il y avait beaucoup d'émotions.
Normal.
J'étais le regard rivé sur le texte. Parce que bon, je me suis posé la question. Est-ce que j'y vais franco? C'est-à-dire, bon... Je dis, où est-ce que j'écris quelque chose? Et je me suis dit que d'écrire un texte me donnerait un ancrage. C'est-à-dire que pendant la lecture, j'ai eu les yeux rivés sur le texte, et non pas sur le cercueil ou sur l'assemblée. Donc ça permet d'être... ça a été beaucoup plus facile. On me sert un peu moins. Ce que j'avais écrit, j'ai écrit deux textes dont j'en ai lu un, qui était plus sur Mamie Jaja, parce qu'elle était connue comme ça sur le quartier. Et mes sœurs ont lu le texte que j'avais écrit, qui était vraiment là sur maman, quoi. Donc comme elle faisait une lecture à deux, pendant que l'autre lisait, ben, celle qui ne lisait pas, voyez un petit peu la réaction des gens, etc. Donc ça a été plus compliqué pour elle que pour moi. Mais bon, on n'en parlera plus. C'est fini, enfin, de la lecture dans ce contexte. Bien sûr qu'on parlera toujours de ma mère, puisqu'elle a... Alors combien de temps, je ne sais pas. Mais elle a bien marqué le quartier, quoi. Militante de très très tôt, hein, puisque elle militait déjà politiquement et syndicalement lorsqu'elle était à Saint-Pierre. Et quand elle est arrivée ici, elle a été une des premières à s'inscrire dans le centre social qui venait juste de... Enfin, lorsqu'il s'est ouvert, puisqu'il s'est ouvert en 67. Et à partir de là, eh bien, elle a toujours été présente pour tous les combats du quartier. Pour le quartier et ses habitants, elle a toujours été là. Elle faisait le directeur Stéphane Marolo, qui était aux obsèques, rappeler que lors des sorties du centre social, eh bien, elle arrivait avec un caddie, mais rempli à ras-bord. Et au moment de manger, elle distribuait à tout le monde, quoi. Elle distribuait à tout le monde, parce qu'elle savait très bien qu'il y avait des gens qui venaient, mais avec le minimum, parce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir plus. Donc elle était là pour elle, il n'y avait aucun problème, quoi. Voilà, c'était
quelqu'un, ici.
C'était quelqu'un, ouais. Et une belle personne. Je ne suis pas ça parce que c'est uniquement parce que c'est ma mère, mais c'est le témoignage que l'on m'a fait de cette
maman. Elle s'est inscrite dans le quartier, quoi.
Voilà.
C'est les gens l'ont toujours...
Ouais. Mmh. Donc voilà. Donc on va refermer cette
parenthèse. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Denis. Et alors à partir de quel moment, du coup, je me demande, tu t'es mis à écrire pour les autres, sur les autres?
Y a pas,
parce
y a
que
pas...
c'est comme un cadeau, en fait, que tu fais à l'autre,
ouais,
quand t'écris sur Yo-Yo.
Ouais, mais il n'y a pas très longtemps, hein. ça remonte...
Peu importe.
Au mois de juin 2017. 2017.
Donc t'es en train de nous dire que c'est le premier cadeau que t'as fait, que c'est la première fois que t'écrivais pour quelqu'un d'autre, comme en guise d'un cadeau que tu lui faisais, une déclaration quelque part.
Oui, pour Yo-Yo, c'est un samedi matin, on était en train de discuter, et puis voilà, j'écoutais, puis je me suis dit, mais il y a plein de trucs à dire là-dessus, sur l'endroit. L'endroit que je hante depuis quelques années, hein, mais je me suis, à un moment donné, voilà, il y a des révélations qui se font, on ne sait pas trop pourquoi. Je me suis dit, mais il y a plein de trucs à dire. Je vais lui écrire quelque chose qui parle de lui et de son. Et de son vidéoclub, parce que c'est quand même un lieu qui est
particulier,
qui est hors du temps.
Dans le bon sens du terme.
Ah ouais, mais qui est aussi hors du temps, puisque... Enfin, pour d'autres trucs. Non, parce qu'en même temps, je me remémore plein de choses. Et donc, voilà, je me suis dit, ça serait bien de lui concocter une petite
cette petite bafouille... j'ai envie de te dire, tiens, on va retomber quelque part sur nos pattes du début de notre conversation. On peut lui faire une petite dédicace à Yo-Yo, si tu veux bien.
Oui.
Alors, je te propose, parce que je l'ai là.
Ah, d'accord. Ah oui, et qu'est-ce que je dois faire?
Je sais pas.
Ah ouais. Donc, je vais lire cette petite bafouille. Alors, si vous le permettrez, je vais le lire en langage des signes.
Absolument. Hein ?
Comme ça, il n'y aura aucun problème. Ou en braille.
En braille, allons-y.
En braille.
Je t'écoute.
D'accord. Donc, je n'ai jamais fait cette lecture.
Hein. Je n'en doute pas.
Merci beaucoup du cadeau. Tiens, j'ai réfléchis mon téléphone
pas.
Qui sonne.
Ah. Il faut que j'y aille. Faut que j'y aille, oui. Allez, on se prend pas, on y va comme ça.
Il est un lieu en dehors du temps, un endroit où les minutes peuvent être des secondes ou des jours au gré de chacun. C'est un endroit hanté par les esprits de centaines d'artistes passés ou en devenir. Un lieu qui a sa propre voie lactée. Le gardien de ce sanctuaire vous accueille dans une langue étrange qui ne comporte que deux mots. Mais ces mots renferment toute la fantaisie de cet homme. Le premier pour vous souhaiter la bienvenue, et le second, moins usité, pour le revoir. Ces mots dont les consonnes sont remplacées par une voyelle font rentrer les visiteurs dans une réalité, celle où rien n'est évident, tout n'est que le résultat d'une alchimie de talent et de génie. Cet homme vous racontera les légendes qui peuplent ses étagères, vous donnera envie de partir à la découverte de petits bijoux de cet art que l'on dit septième, mais qui pour lui est majeur, vous sortira de son chapeau l'œuvre sans laquelle votre vie aurait manqué de saveur. Il vous contera aussi l'histoire de cet enfant des marais qui fut pris de passion pour l'instantané, qui passera son temps à fixer l'instant pour que le passé soit présent dans le futur, pour que les rires de l'enfance ne meurent pas, pour que l'innocence d'un regard nous rappelle qu'un jour nous avons eu aussi ce regard. Il vous expliquera que pour lui, ces volumes bétonneux ont été un terrain de jeu, puis sont devenus une présence familière qu'il ne peut s'empêcher de rendre belle en les mariant à des bouts de ciel bleu ou d'éphémères pétales de fleurs. Il vous dira ces visions qui donnent une apparence humaine à des objets qui en sont dépourvus. Il vous invitera à boire un café parmi les habitués qui refont des mondes déjà disparus. Et vous observerez avec curiosité les portraits d'enfants, d'adultes qui se mélangent dans une farandole où les âges se confondent et où certains vieux ont des regards émerveillés et des enfants qui ont des regards de ceux qui savent que le Père Noël n'est plus de leur monde. De ses doigts agiles, il vous retrouvera parmi ses fiches intemporelles et il égrènera une généalogie sans fin avant de crier triomphalement votre nom. Et vous serez heureux avec lui qu'il vous ait retrouvé parmi ses milliers de voisins de fichiers. Cartes écornées, mille fois manipulées, surchargées d'annotations, de messages, mais indispensables à cet homme. Cette boutique a une âme, celle de son gérant. Homme de peu, mais de cœur. Il a su, à une époque où toute entreprise doit s'incliner devant le dieu argent, faire des offrandes aux divinités de la Connecticut, privilégier les échanges entre les habitants de son quartier, offrir une halte dans un quotidien maussade. Cet homme est un Gaulois, irréductible, râleur, tenace, faisant front contre ceux qui veulent lui prendre sa machine à créer du fabuleux. Il est également attachant, souriant avec un humour décalé que certains doivent détester mais que d'autres adorent. Il vous montrera ses tas d'amis virtuels, il n'oubliera pas l'anniversaire de chacun. Il a dû récemment déménager car son ancien antre de la pellicule a été démoli. Quelques-uns ont craint que le nouvel endroit tout neuf perde de son charme, de son ambiance chaleureuse. Mais cela n'a pas été le cas, grâce à cet homme. Cet homme qui permet à tous de visionner des moments de joie, de nostalgie et d'émerveillement, est le propriétaire de milliers d'heures d'images en noir et blanc et en couleur, porte le nom d'un personnage qui pourrait être imaginaire, mais qui est bien réel, Yo-Yo. Voilà le petit mot que j'ai écrit pour cette personne qui est vraiment très attachante et qui est un ancrage dans le quartier. Comme voilà, il y a des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles qui sont des repères, non seulement dans le temps, mais aussi dans leur façon de se comporter avec son prochain. Et ça, c'est très très important. C'est que on est dans une société qui désincarne de plus en plus les rapports entre les gens par les nouvelles technologies. Lui reste quand même très très attaché à ça, comme je le suis d'ailleurs, hein, puisque moi, je n'ai pas de vidéo club. Mais j'essaie d'être présent dans le quartier. Parce que je suis au centre social, au centre d'animation, je suis au collège, je suis dans beaucoup d'instances, je monte des projets, j'ai mon arbre à palabre.
Ah.
Mais l'arbre à palabre, c'est...
Tu connaîtrais pas l'Afrique par hasard?
Bon, je vais casser la gueule à Michel.
L'arbre à palabre.
L'arbre à palabre. Est né d'un constat que j'ai fait, c'est que les gens se croisent, échangent des banalités, mais ils ne vont pas plus loin. Manque de temps, manque d'intérêt. Et je me suis dit, il faudrait créer un dispositif, un lieu, un objet qui leur permettrait de se retrouver. D'où l'arbre à palabre qui est...
Tu l'as planté où ?
Je ne l'ai pas planté, justement, ça a été...
Il est mobile.
Il est mobile, c'est-à-dire que tous les arbres de cette cité, de ce quartier, sont un arbre à palabre.
Génial.
En devenir. Lorsqu'on installe l'arbre à palabre... L'arbre choisi est repéré par des grandes voiles multicolores. Ça devient l'arbre à palabre. Mais c'est pas... Il est le temps de la manifestation. Après, il redevient l'arbre tout à fait normal. Et ça permet aux gens de se rencontrer, de parler. Il n'y a pas de thème. Hein. Voilà, les gens se rencontrent, parlent. Ou ne serait-ce que écouter, parce que des fois on a juste besoin d'écouter. Ça, pour les personnes qui sont seules, c'est aussi savoir qu'elles ont un endroit où, où elles vont pouvoir voir du monde, participer à un débat. Les débats qui ne sont absolument pas mis en place, c'est les gens qui font des qui font débat. Nous, nous, on est juste là pour dresser un arbre et pour les inviter à discuter. On prend part ou non à la discussion, puisque des fois, lorsque deux habitants se rencontrent, ils peuvent parler entre eux sans que on ait la nécessité d'intervenir. Par contre, voilà, ils parlent sous l'arbre ou à côté. Alors, donc c'est bien un endroit repéré. C'est avec la finalité qui est de créer du lien. Hein, parce que bon, les mamies qui habitent du côté du chat, c'est-à-dire là-bas, rencontrent rarement les mamies qui habitent à l'opposé. Parce que voilà, elles n'ont aucun intérêt à le faire. Comme ça, mais si on crée les occasions, si on multiplie justement le fait que il est possible que, enfin, qu'il existe un dispositif leur permettant justement de se retrouver pendant un instant,
un prétexte
de se retrouver, enfin de casser cette solitude qui doit quand même leur peser, c'est intéressant. Alors c'est un dispositif qui est animé que par des habitants, pour les habitants. Puisque moi, là-dedans, même si j'ai initié l'idée, je ne suis qu'un habitant parmi les autres. Moi, je ne suis pas le chef, je commande à rien du tout. Et j'ai fait... J'ai demandé à un dessinateur, mais bon, s'il voulait bien faire les affiches, hein. Bon, c'est pas génial. Je me contente de peu. Hein.
Ça va s'améliorer. Hein? Et alors le prochain. Donc, c'est tous les combien, c'est où, c'est n'importe
quoi. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc il faut quand même que je donne le nom du dessinateur. Parce que
oui.
C'est Toto.
Ah ouais, tu m'as eu.
Ouais, non, mais.
Donc le dessinateur Toto.
Donc c'est lui qui me fait. Qui nous fait les affiches, mais il est partie intégrante de l'arbre à palabre aussi. Ça nous permet de nous crêper le chignon de temps en temps. Bon, lui, ça fait 40 ans qu'on se connaît, quoi. Donc, c'est comme les vieux couples, hein, qui sont toujours en train de se chamailler, mais qui jamais ne se sépareront parce que on a besoin de ça. Non, mais ça reste très chaleureux.
Hein. Écoute, je te remercie vraiment. Pour justement toute la chaleur de tes mots et tout ce que j'ai pu voir dans tes yeux d'émotion et j'ai vu aussi des souvenirs qui passaient, qui défilaient devant tes yeux. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci vraiment.
Bon, mais moi aussi, je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur le quartier. Enfin, moi, quand il faut que je parle de cette cité, peut-être que c'est la relève de ma mère, mais. Ça doit être une histoire de chromosomes, je ne sais pas. Mais voilà, ce quartier, il mérite d'être connu, d'être défendu. J'invite à tous ceux qui pourront m'écouter à venir visiter ce quartier, parce qu'il y a plein de belles choses. Il y a de belles choses, il y a de belles chances aussi, comme on dit. Et voilà, venez, vous y verrez. Hein. Ce n'est pas un quartier où... De bruit, de fureur, c'est un quartier de vie.
D'ailleurs, depuis qu'on parle, ça fait une heure maintenant, j'ai pas entendu un klaxon.
Mais non, mais voilà, il faut mettre à bas tous les préjugés, tous les on-dit. Venez vous rendre compte de ce qu'est le Grand Parc, je vous assure, hein, on ne vous détroussera pas à chaque coin de rue, il n'y a aucun problème. Hormis évidemment les problématiques inhérentes à tous ces grands ensembles, mais qui sont communs à tous, hein, il n'y a pas de truc. Mais je peux vous assurer, pour l'avoir pratiqué depuis X années, que ce quartier est bon à vivre. Il fait bon vivre dans ce quartier. Voilà.
Merci beaucoup, Dominique.
De rien.
Je te dis à très bientôt.
Au revoir. Salut.